France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et l'on débutera ce journal avec les derniers développements de cette sixième nuit consécutive de guerre ouverte entre Israël et l'Iran. On s'interrogera également sur les ambiguïtés du président américain. Va-t-il entraîner son pays dans un nouveau conflit au Moyen-Orient? Et puis on verra combien le positionnement des Européens vis-à-vis de cette guerre mériterait lui aussi quelques éclaircissements. L'actualité en France, c'est tout d'abord ce remake d'Un jour sans fin. Pour le conclave des retraites, on tâchera par ailleurs de décrypter un partenariat totalement inédit, TF1, qui débarquera sur Netflix en 2026. Et puis avec notre invité, on parlera de cette toute première édition de la semaine consacrée à la musique française. Qu'il semble décidément difficile de ne pas admettre que notre monde devient chaque jour un peu plus fou. Hier, passant d'un extrême à l'autre, Donald Trump a envoyé une salve de messages belliqueux à l'adresse de l'Iran, quitte à renier sa propre prétention à incarner l'art de la négociation, jusqu'à se muer en une sorte de cavalier de l'apocalypse. Alors avant de chercher à savoir si le locataire de la Maison Blanche est effectivement susceptible d'engager son pays dans la guerre entre Israël et l'Iran, voyons déjà comment s'est déroulée cette sixième nuit d'affrontement entre l'État hébreu et la République islamique. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
À l'évidence, même si l'armée iranienne dit avoir tiré des missiles balistiques hypersoniques, sa riposte aérienne a malgré tout baissé d'intensité. À l'inverse, en revanche, plus d'une cinquantaine d'avions de combat israéliens ont, eux, bombardé une installation de production de centrifugeuses à Téhéran, ainsi que plusieurs sites de fabrication d'armes.
50 avions de combat mobilisés en effet cette nuit pour frapper au total une vingtaine de cibles dans la capitale iranienne, notamment ce site de production de centrifugeuses. Elles permettent les centrifugeuses d'enrichir la matière nucléaire à des niveaux proches d'un seuil militaire. Le site d'enrichissement de Natanz, c'est l'une des installations clés du programme nucléaire iranien, a été frappé à plusieurs reprises. Sa partie en surface est détruite, mais des dégâts ont également été infligés dans sa partie souterraine. Les sites nucléaires d'Ispahan dans le centre de l'Iran sont aussi toujours pris pour cible. Et en effet, l'armée israélienne s'emploie dans le même temps à détruire les capacités offensives de l'Iran. Des sites produisant des matières premières, des composants et des systèmes de fabrication de missiles sol-sol ont donc aussi été ciblés. De son côté, l'Iran a tiré de nouvelles salves de missiles vers le territoire hébreu sans faire de victimes. L'armée iranienne qui annonce, vous le disiez, avoir fait usage de missiles hypersoniques de portée intermédiaire, censés être beaucoup plus difficiles à contrer, et qui a abattu au moins un drone israélien sur son territoire. Le porte-parole de la police iranienne dit que ce sont 14 drones qui ont été interceptés et des ateliers de production de drones identifiés. L'armée de l'État hébreu reconnaît la perte de l'un de ces drones, tout en assurant qu'il n'y a aucun risque de fuite d'informations.
Merci Marie-Pierre Véraud. Alors j'évoquais en introduction le ton de plus en plus martial de Donald Trump, au point que nombreux sont ceux à juger que les preuves s'accumuleraient quant à la possibilité que les États-Unis se joignent à la campagne israélienne contre l'Iran, ce qui constituerait évidemment un revirement radical par rapport à la confiance affichée il y a encore deux semaines à peine dans la possible signature d'un accord nucléaire entre Washington et Téhéran. Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Thomas.
En réalité, rien n'est encore très clair quant aux intentions du président américain. À Washington, les faucons sont bien entendu favorables à la guerre, sauf que plusieurs figures de la base trumpiste, Frédéric, refusent de se faire embarquer dans un nouvel imbroglio militaire au Moyen-Orient.
Oui, la base trumpiste qui a encore en souvenir les promesses de campagne. Avec moi, il n'y aura pas de nouvelle guerre, disait Donald Trump. Alors le vocabulaire belliqueux du président hérisse une partie de cette base. Par exemple, Steve Bannon, l'ancienne éminence grise du président, les deux hommes sont fâchés, mais Steve Bannon conserve une influence au sein de la droite dure américaine, notamment grâce à ses podcasts. Et bien justement, dans son podcast hier, Bannon a mis en garde contre un scénario à l'irakienne, une guerre soi-disant facile, en réalité un bourbier sans fin.
Rappelez-vous du 19 mars 2003, ce grand Big Bang. Ensuite, ça a duré pendant quoi? 10, 15, 20 ans? Même chose pour la guerre en Afghanistan. 20 ans avec beaucoup de mensonges qui vous ont été racontés, des mensonges éhontés.
Autre déçu parmi les Trumpistes, Tucker Carlson, cet ancien présentateur sur la chaîne ultra-conservatrice Fox News, désormais influenceur de droite aux accents parfois complotistes. Carlson vient de publier l'extrait d'une interview qui illustre, selon lui, l'amateurisme des Trumpistes. Dans cet extrait, il interroge le sénateur Ted Cruz, Combien l'Iran compte-t-il d'habitants ? Aucune idée, répond ce sénateur proche de Donald Trump.
How many people live in Iran, by the way?
I don't know the population.
No, I don't know the population.
You don't know the population of the country you seek to topple?
Et donc, vous ne savez pas combien il y a d'habitants dans un pays que vous voulez renverser, s'indigne Tucker Carlson. Une indignation qui ne plaît pas à Donald Trump. Évidemment, il qualifie d'excentrique l'ancien journaliste avec lequel il était pourtant dans les meilleurs termes. Voilà aussi ce qui fait hésiter le président américain en se lançant dans une intervention militaire en Iran. Il contredirait ses promesses et décevrait une partie de ses troupes.
Merci Frédéric Saïs. Alors si Donald Trump s'évertue à lancer des signaux tous plus contradictoires les uns que les autres, côté européen, cette fois-ci difficile là aussi de distinguer une stratégie parfaitement claire. Il faut dire que plusieurs pays avaient commencé à prendre leur distance avec Israël en raison de la guerre à Gaza, sauf que le déclenchement du conflit entre Tel Aviv et Téhéran a conduit certains à se lancer dans un nouveau numéro d'équilibriste, de sorte que l'Union européenne à présent divisée a du mal à se faire entendre. Les précisions depuis Bruxelles de Fabien Cazot.
La chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, l'a encore dit hier soir dans l'enceinte du Parlement européen. Selon elle, c'est la diplomatie qui permettra de résoudre le plus efficacement possible le problème du nucléaire iranien. Une forme de statu quo devenu inaudible depuis qu'Israël a décidé de passer à la vitesse supérieure en bombardant les principales installations du programme nucléaire iranien, alors que Donald Trump appelle en même temps Téhéran à une capitulation sans condition. Le partage d'options militaires entre Israël et les États-Unis est si intense qu'il ne laisse aucune place aux Européens. D'autant que ces derniers se montrent divisés, que ce soit au sein du Parlement européen où les principales forces politiques se déchirent entre ceux qui saluent le courage d'Israël de s'en prendre à l'Iran et ceux qui dénoncent au contraire la logique va-t-en-guerre de l'État hébreu. Même les chefs d'État et de gouvernement qui se retrouveront en sommet européen la semaine prochaine ne semblent pas alignés. L'Allemand Friedrich Merz estimant qu'Israël fait le sale boulot pour le compte de l'ensemble de la communauté internationale, quand Emmanuel Macron estime de son côté qu'un changement de régime en Iran serait synonyme de chaos.
Et pendant ce temps, la guerre lancée par Israël contre l'Iran n'a en rien modifié l'enfer des Gazaouis.
Oui, puisque c'est ainsi que se définit, mois après mois, le quotidien des Palestiniens. Bombardements indiscriminés, blocus alimentaire et sanitaire. Pour la troisième fois en moins d'une semaine, les services internet et de téléphonie ont été coupés hier, dans le centre et le sud de l'enclave, à la suite d'une attaque que l'autorité palestinienne impute à l'État hébreu. Quant à la défense civile de la bande de Gaza, elle accuse les forces israéliennes d'avoir tué plus de 50 personnes rassemblées près d'un centre de distribution de nourriture. Avec l'espoir, là aussi, que les opinions ne s'accommodent jamais de la banalité du mal en détournant le regard, les autorités de Kiev ont fait état hier de multiples frappes meurtrières lancées par l'armée du Kremlin et en particulier sur la capitale, l'une des pires depuis le début de l'invasion russe, sauf que Vladimir Poutine peut lui toujours compter sur le soutien, disons, tacite de Donald Trump. Hier, non seulement les États-Unis se sont opposés à une déclaration forte du G7 sur l'Ukraine qui condamnerait la Russie, mais la veille, le président américain avait déjà quitté le sommet avant sa rencontre prévu avec le président Zelensky.
La réserve fédérale américaine devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés aujourd'hui.
Et ce pour la quatrième fois consécutive depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, un statu quo synonyme de l'immobilité prudente dont fait preuve l'institution face au terrain glissant des droits de douane et des crises géopolitiques, ce qui ne devrait pas manquer d'alimenter en revanche la frustration de Donald Trump, lequel réclame sur tous les tons une forte détente des taux directeurs afin de réduire les coûts d'emprunt des particuliers et des entreprises.
Midi passé de 38 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Énième report de la date butoir et surtout nouvel aveu d'échec hier après 3 mois et demi de concertation et au terme d'une ultime journée de discussion laborieuse, le conclave des retraites qui devait s'achever a finalement obtenu une journée de discussion supplémentaire, ce sera le 23 juin, sauf que parmi les partenaires sociaux encore autour de la table, plusieurs hésitent déjà à s'y rendre, en l'occurrence les discussions entre syndicats d'un côté et patronat de l'autre achoppent toujours sur la prise en compte de la pénibilité et de l'usure, de même que sur l'abaissement à 66 ans au lieu de 67 de l'âge de départ sans décote. Wafia Kenij, bonjour.
Bonjour Thomas.
Autant dire qu'on est encore très loin, Wafia, de l'accord que Matignon avait promis de soumettre au Parlement.
Oui, dans ce texte qui sera proposé aux organisations patronales et syndicales, Jean-Jacques Maret, le médiateur, devrait évoquer les mesures en faveur des femmes. Selon les partenaires sociaux, encore hier soir, c'est le sujet le plus consensuel. Pour celles ayant eu des enfants, leur pension de retraite serait calculée sur les 23 ou 24 meilleures années, un chiffre qui reste à préciser, contre 25 aujourd'hui. Sur la pénibilité, d'après la CFDT, le patronat accepterait l'instauration d'un nouveau compte pénibilité, moins avantageux que celui qui existait avant 2017 pour les salariés, mais qui permettrait à certains d'entre eux un départ anticipé en retraite. Sur l'âge de départ à 67 ans, sans perte d'argent, pour les personnes qui n'ont pas cotisé pour tout leur trimestre, le texte propose 66 ans et demi contre 67 actuellement. En contrepartie, le dispositif des carrières longues, serait restreint.
Patrick Martin, donc le dirigeant du MEDEF, disait ce matin son scepticisme quant à l'issue de ce conclave. Est-ce que le texte qui sera présenté lundi au AFIA peut convenir au patronat ?
Alors, pour le MEDEF, se pose d'abord la question de sa présence lors de cette dernière journée de discussion. Ensuite, dès le début du conclave, Patrick Martin, comme François Bayrou, ont clairement refusé tout débat sur l'âge de départ à 64 ans. On aurait donc pu s'attendre à des efforts de leur part sur la pénibilité ou s'agissant du départ à 66 ans sans décote. Mais l'organisation patronale répond sur les deux sujets. Aucune nouvelle dépense ne sera supportée par les entreprises. Chez la CPME, l'organisation des petites et moyennes entreprises, il y a un réel effort pour y arriver. L'organisation patronale minoritaire veut donner la preuve de sa capacité et de la capacité des partenaires sociaux à reprendre la main sur la gestion du régime de retraite, un enjeu de taille.
Merci Wafia Kenich. Les députés ont finalement adopté hier le projet de loi dit de simplification à l'issue de 3 mois d'un examen totalement décousu par de multiples reports. Là encore, et malgré la division du camp gouvernemental, le texte a été adopté par la droite, le centre et l'extrême droite, rejoint par les 2/3 des élus macronistes qui auront laissé planer le suspense jusqu'au bout. Ce vote entérine ainsi plusieurs reculs, en particulier la suppression pure et simple des zones à faible émission contre la pollution de l'air, de même qu'une franche régression du dispositif de lutte contre l'artificialisation des sols.
On l'a appris ce matin et c'est une première mondiale.
TF1 débarquera sur Netflix à partir de l'été 2026. En clair, la plateforme américaine va diffuser les chaînes du groupe en vertu d'un partenariat inédit. Fiona Mogadam, bonjour.
Bonjour.
Alors, on ne connaît pour l'heure ni la durée ni le montant de cet accord de distribution. Qu'est-ce qui justifie, Fiona, que le géant du streaming donc ouvre ainsi sa plateforme à un autre opérateur ?
C'est un accord pour le moins surprenant. Il y a bien eu des partenariats entre TF1 et Netflix ces dernières années, mais jusqu'ici, il s'agissait de coproductions de séries comme la série de télé-réalité L'Agence ou encore Les Combattantes avec Audrey Fleurot, diffusée en 2022. C'est donc la première fois que Netflix ouvre sa plateforme à un autre opérateur. Tout le contenu de TF1 sera disponible pour les abonnés Netflix en France. L'an dernier, TF1 a pourtant lancé TF1+, sa plateforme de streaming gratuite et ambitionné d'en faire la première en France et dans les pays francophones. Elle reste au centre de notre stratégie, affirme aujourd'hui Rodolphe Belmer, le PDG de TF1, qui estime que cette alliance avec Netflix permettra au programme de TF1, de la chaîne, d'atteindre des audiences inégalées. Netflix compte plus de 10 millions d'abonnés en France. C'est donc un distributeur de plus pour la chaîne privée qui peut déjà compter sur les box des 4 opérateurs téléphoniques et Canal+. Pour Netflix, ce nouveau partenariat lui permettra d'acquérir des contenus jugés complémentaires, notamment des émissions en direct, Koh-Lanta ou The Voice par exemple, et du sport, domaine dans lesquels la plateforme est aujourd'hui peu présente, mais qu'elle est en train de développer d'après Greg Peters, l'un des responsables de Netflix. Ce n'est pas la première fois qu'une chaîne privée s'associe avec une plateforme. Canal+, le propose depuis quelques années, avec des partenariats avec Apple TV+, Paramount, HBO Max, ainsi que Netflix et TF1. Donc.
Merci Fiona Mogadam.
C'était un souhait du président Emmanuel Macron.
La création d'une semaine entière dédiée à la promotion de la richesse musicale française sous toutes ses formes à travers de multiples manifestations, ateliers, conférences et bien sûr concerts en amont de la fête de la musique et en bon anglais donc au pays de Bizet et Ferré, ça donne la France Music Week. Alors cette première édition a débuté lundi, elle est portée par le ministère de la Culture, pilotée par le CNM, le Centre National de la Musique. Qu'en pensent les premiers intéressés? Comprenez les professionnels de l'industrie du secteur. Louis-Valentin Lopez a posé la question. Aurélie Andouche, elle dirige le syndicat de la filière des musiques actuelles. Elle est aujourd'hui l'invitée de la rédaction.
Bonjour Eliane Douche.
Bonjour.
Alors vous attendiez des annonces concrètes lors de cette France Music Week. Rachida Dati n'a pas perdu de temps. Elle a annoncé lundi un plan de financement des entreprises de la filière musicale. On parle quand même de 500 millions d'euros sur 5 ans à travers la Banque publique d'investissement. Est-ce que c'est une annonce qui va dans le bon sens pour vous?
En tout cas, c'est toujours un plaisir et puis une bonne chose d'avoir des annonces positives pour la filière musicale, évidemment, qu'on représente. En revanche, ces 500 millions d'euros, il va falloir qu'on regarde exactement de quoi il s'agit. À l'heure qu'il est, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il recouvre concrètement. Ce qu'on attend avant tout, c'est que le président de la République ou le Premier ministre annonce d'ici la fin de semaine le fait que la redistribution, le financement redistributif au CNM soit bien conforté, et on attend ces annonces d'ici la fin de semaine.
Alors nous, on y reviendra d'ici la fin de cette interview. Je vous propose d'abord de revenir peut-être sur cette France Music Week qui se déroule toute la semaine. On parle d'une cinquantaine de manifestations labellisées, des concerts, résidences, le tapis rouge aussi déroulé aux acteurs de la tech, aux labels. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de cette France Music Week au syndicat des musiques actuelles?
Alors, on attend de cette opération qui a été souhaitée par le président de la République qu'il valorise en fait l'ensemble de la filière des musiques actuelles et dans toute sa diversité. Effectivement, vous l'avez dit, on parle de tech, on parle beaucoup d'industrie musicale, c'est un terme d'ailleurs qui est assez assumé par le gouvernement et par la ministre. On attend aussi que l'ensemble de la filière musicale soit valorisée. Effectivement, peut-être ce qu'on peut regretter au SMA, c'est que ça soit un événement qui soit quand même assez parisien et puis assez orienté sur l'industrie.
Avec des partenaires hétéroclites, hein. J'ai regardé un peu la liste, on a YouTube, on a le Louvre, on a France Télé, Radio France aussi, EDF, mais aussi Renault, Coca-Cola. Est-ce que le risque, c'est pas que ça fasse un peu vitrine promotionnelle pour tous ces partenaires qui vont plus se vendre et la musique et que la musique passe un peu au second plan?
C'est sûr qu'en termes de partenaires, il y a quelques partenaires qui nous interrogent, surtout qu'on a quand même eu, en termes de souveraineté dans notre filière, une filière française qui est quand même d'excellent niveau, et peut-être qu'on aurait pu aussi plus la valoriser, plus que de valoriser des acteurs extra-européens sans faire de chauvinisme. Mais voilà, on regrette un peu effectivement que certains soient pas mis plus en avant, et on a l'impression qu'on donne aussi beaucoup de place en fait à des acteurs notamment américains. Ce qui se passe aux États-Unis.
D'ailleurs, on dit France Music Week à l'anglaise. Hein, ils ont choisi un titre anglais, c'est pas un hasard.
Exactement. Est-ce que ce qui se passe aux États-Unis est un futur désirable pour la filière musicale française? Ça n'est pas ce que nous revendiquons, en tout cas, de notre point de vue. Et voilà, on se dit que peut-être il y a aussi tant des entreprises que des acteurs français qu'on aurait pu mieux valoriser dans le cadre de cette semaine.
Vous évoquiez déjà des points qui vous préoccupaient particulièrement en début d'interview. Il y a beaucoup de sujets brûlants en ce moment dans l'industrie, pour reprendre le terme musical. L'intelligence artificielle, les menaces sur les droits d'auteur, les inégalités de partage de valeur dans le streaming, les festivals qui peinent pour certains, on l'a vu, à sortir la tête de l'eau. C'est quoi l'urgence pour vous?
Alors l'urgence, en fait, quand on a envie de valoriser la filière musicale française, c'est d'assurer sa pérennité. En fait, tout simplement, si le président de la République a voulu cet événement, l'idée c'est de se dire que dans 10 ans, dans 20 ans, il faut toujours que cette filière, elle soit forte, qu'elle soit présente. L'année dernière, la moitié, 48% des festivals pour être exact, ont fini leur édition en déficit. Le ministère de la Culture dit aussi que 40% des scènes de musique actuelle ont fini leur exercice 2024 en déficit. Donc oui, il y a urgence.
Avec la France Music Week, la France peut devenir le premier pays producteur de musique. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Rachida Dati dans une interview au Figaro la semaine dernière. Est-ce que vous y croyez?
En tout cas, quand on voit la santé de notre cinéma, c'est aussi grâce à des mécanismes redistributifs qui ont été posés en 1946 au Centre National du Cinéma, au CNC. On a la chance dans la musique de bénéficier d'une redistribution assez similaire avec notre CNM, notre Centre National de la Musique, qui est beaucoup plus jeune, qui date de 2020. Et en fait, ce qu'on attend, c'est que, comme dans le cinéma, la redistribution joue à plein. Aujourd'hui, en France, on a des blockbusters qui vont financer de la RSC. Et nous, ce qu'on attend dans la musique, c'est d'avoir cette même force de frappe en termes de redistribution, d'avoir certes des grandes jauges dans des arénas, dans des stades, et puis par ailleurs d'avoir des tournées qui vont pouvoir jouer en milieu rural, dans des plus petites salles, dans des SMAC, dans des cafés-concerts, d'avoir de la possibilité de soutenir de nouveaux artistes qui vont émerger, qui comme Zao Zagazan vont pouvoir commencer dans une SMAC avec 40-50 payants et demain aller à l'international. Donc ce qu'on attend, c'est que le phénomène de redistribution joue à plein comme dans le cinéma, et aujourd'hui comme les taxes au CNM sont plafonnées, Ça ne fonctionne pas et c'est ce qu'on attend concrètement comme attente cette semaine.
Merci Aurélie Andouche d'avoir répondu à nos questions sur France Culture. Je rappelle que vous êtes directrice du SMA, le syndicat des musiques actuelles. Bonne journée à vous.
Merci.
Et merci également à vous, Louis-Valentin Lopez. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Partout ensoleillé, même si quelques nuages orageux pourront se former en haute montagne. Quant aux températures, elles seront comprises entre 18 et 35 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.